Merci beaucoup. Je remercie tout d'abord les organisateurs de cette invitation. Et c'est un titre assez général que je vais m'exprimer devant vous ce matin pour faire un tableau historiographique des difficultés, donc des défis et des déplacements possibles de cette histoire des émotions telle que je l'aperçois à travers les lectures que j'ai pu faire. Je laisserai un petit peu de côté, même si je l'évoquerai ici et là, mes propres enquêtes, j'allais dire, qui ont effectivement des liens plus ou moins ténus avec l'histoire des émotions, c'est-à-dire l'enquête passée sur les deuils politiques à l'âge romantique, d'une part, et puis d'autre part, les phénomènes de violence symbolique autour des images et des signes politiques au XIXe siècle, ces violences étant évidemment liées à des affects puissants, en particulier dans des contextes de crise politique. Je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur le point de départ qui a été le mien sur cette histoire des émotions, en évoquant en quelques mots le chantier qui a été donc le mien autour de cette France des larmes, c'est-à-dire ce moment particulier de l'histoire politique française où les deuils ont été des occasions à la fois d'affrontement et de réconciliation, et où un quart de siècle après la Révolution française, ces deuils ont aussi participé au processus de politisation. Et dans ce cadre, j'ai donc étudié la mobilisation des affects et les gammes d'émotions que ces deuils ont pu solliciter, gammes extrêmement variées, car le deuil n'est pas qu'affliction. Le deuil peut être joie, parfois, on chante dans des cortèges funèbres, on s'en est rendu compte très récemment avec le deuil planétaire de Mandela. On appelle aussi parfois à la vengeance, à l'expiation, etc., etc. Et d'autre part, contrairement aussi au stéréotype de la trêve des morts qui veut qu'il y aurait autour des deuils un moment clos de réconciliation politique, eh bien, au contraire, dans ce moment particulier de l'histoire française, ces deuils ont été des occasions d'affrontement et de lutte parfois fratricide. C'est le moment aussi où naît le rituel des enterrements manifestations, c'est-à-dire des enterrements donnant naissance à des cortèges proches de la manifestation moderne. Et dans ce cadre, pour être encore un peu plus précis, j'avais analysé plus spécifiquement la politique des émotions, c'était le titre d'un des chapitres, dans le cadre d'un deuil bien singulier qui est le deuil du régicide de Louis XVI, exécuté le 21 janvier 1793 et dont on commémore la mort pendant la restauration des Bourbons, entre 1814 et 1830. En sollicitant, là aussi, des émotions contradictoires. Et c'est à cette occasion que j'avais tenté d'étudier comment, pour reprendre l'expression utilisée hier, un dispositif de sensibilisation a pu être reçu, intériorisé par les différents acteurs. Et j'ai donc pu travailler sur l'incorporation des émotions, mais j'en reparlerai tout à l'heure plus avant. Et puis donc plus récemment, et c'est à ce deuxième titre surtout donc j'interviendrai aujourd'hui, nous avons réfléchi avec quelques collègues de spécialistes d'histoire du XIXe siècle aux apports possibles d'une histoire des émotions à cette histoire du XIXe siècle. Et nous avons donc rédigé à huit mains, ce qui est une expérience pas évidente en sciences sociales, donc quatre chercheurs avec des écritures, des sensibilités, des spécialités différentes, un article donc de synthèse qui va bientôt paraître dans la revue d'histoire du XIXe siècle sur l'histoire des émotions. Et c'est donc à cette occasion que nous nous sommes rendus compte que cette histoire se heurtait à beaucoup de tensions épistémologiques sur lesquelles il faut peut-être revenir avant de proposer des pistes plus précises. Donc, comme cela a sans doute été dit hier, mais malheureusement, je n'étais pas présent le matin, l'histoire des émotions est une histoire en vogue depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. donnant lieu à une production florissante, plus particulièrement d'ailleurs dans le domaine anglo-saxon, et qui se traduit en particulier par une multiplication de ce que l'on pourrait appeler les topographies émotionnelles, c'est-à-dire des histoires particulières d'émotions ou de sentiments. Une histoire de l'amour, une histoire de la haine, une histoire de la pitié, de la colère. Ces topographies émotionnelles sont intéressantes, mais on constate souvent que leurs fondements méthodologiques sont encore un peu dans des sables mouvants, j'allais dire. Donc je me demande s'il n'y a pas une accélération de ces enquêtes un peu trop rapide par rapport aux questions de méthode. Et puis c'est aussi un champ qui commence à s'institutionnaliser, hein. Je ne sais pas si c'est un signe positif ou non, mais en tout cas, on constate la constitution de centres spécialisés en histoire des émotions, aussi bien à Londres qu'à Berlin, et puis le lancement de programmes de recherche collectifs que vous connaissez sans doute. Mais ce qui frappe d'emblée lorsqu'on regarde de plus près ces travaux, c'est qu'ils résultent d'une généalogie intellectuelle et politique qui est extrêmement variée. D'abord, contrairement à l'idée d'un tournant brutal dans l'histoire des sciences humaines, cette histoire des émotions a une généalogie longue, hein, puisqu'elle remonte bien sûr à la sociologie compréhensive, et hier, il a été fait allusion bien sûr à Max Weber à ce propos. Mais bien sûr aussi, il faut citer les travaux de Norbert Elias, hein, dès les années 1930 sur l'histoire des émotions. Et puis l'appel bien connu, hein, de Lucien Febvre à une histoire de la vie affective autrefois, dans les années 1950, si ma mémoire est bonne. Tout ce pan, hein, historiographique est peu cité par les travaux anglo-saxons, hein, alors qu'il est sans doute essentiel. Il ne faut pas négliger non plus, dans ce renversement et dans cet intérêt nouveau pour l'histoire des émotions, il ne faut pas négliger, bien sûr, le développement des neurosciences et des sciences cognitives, qui sont particulièrement importantes pour l'histoire anglo-saxonne. On y reviendra avec les difficultés et les ambiguïtés. Si on suit maintenant de plus près le parcours des chercheurs qui en sont arrivés à s'intéresser aux émotions, on constate aussi souvent que l'histoire du genre est fondatrice à cet égard. C'est-à-dire que les spécialistes de l'histoire du genre se sont intéressés bien évidemment à la manière dont la domination masculine s'inscrivait aussi dans une répartition sexuée des affects et des normes émotionnelles. Et puis, alors plus généralement, hein, on constate dans la vie sociale contemporaine, hein, une valorisation de l'émotion dans tous les domaines, hein, qui vont de la publicité au management, en passant par la compassion dans le domaine politique. Donc tous ces facteurs, évidemment, montrent qu'il y a des manières plurielles d'envisager l'histoire des émotions, et que peut-être un tri s'impose dans ces diverses manières de construire l'histoire des émotions. Et donc je voudrais revenir, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les tensions épistémologiques, hein, auxquelles cette histoire se heurte, et puis souligner aussi que peut-être s'impose un déplacement, hein, de l'émotion comme objet ou comme champ autonome d'analyse, à l'émotion comme catégorie de compréhension du social, c'est-à-dire non pas un objet clos, hein, mais une manière de comprendre des mécanismes de domination, d'émancipation, etc., etc. J'y reviendrai tout à l'heure. Parce que il faut à tout prix, ça a été dit hier, éviter le psychologisme. Hein. Fondamentalement, c'est le social qui explique le social, et les affects ne permettent, à mon sens en tout cas, de comprendre les changements historiques qu'en tant que ces affects sont socialement construits, socialement normés. Donc, je vais d'abord souligner, hein, les tensions, les difficultés auxquelles se heurte l'histoire des émotions. Et tout d'abord, en premier lieu, la question du partage entre nature et culture, hein, dans les enquêtes sur les émotions et en particulier la question de l'usage des neurosciences, dont je ne suis absolument pas spécialiste, mais je lance le débat en quelque sorte. Et peut-être y a-t-il dans l'auditoire des personnes beaucoup plus compétentes que moi sur le sujet. En tout cas, ce qui frappe, c'est que ces neurosciences, indiscutablement, ont aidé à renverser les oppositions traditionnelles entre raison et passion, raison et émotion. Hein. Elles ont aidé ces neurosciences à renverser ce que psycho-cognitiviste américain Joseph Ledoux appelle le modèle hydraulique des passions, hein, c'est-à-dire le fait de considérer les émotions comme des perturbations du corps, hein, qui seraient en opposition complète avec les mécanismes rationnels. Or, justement, les neurosciences et les sciences cognitives, hein, ont permis de montrer comment les émotions s'inscrivent dans des évaluations cognitives, dans des capacités d'adaptation à des situations, et comment les émotions participent en particulier aux mécanismes de décision, hein, puisqu'on s'est aperçu que lorsqu'une lésion d'une partie du cerveau relative aux émotions était attestée, eh bien, cette lésion produisait en retour une incapacité à choisir. Et donc ces neurosciences ont le mérite, hein, de dégager un certain nombre de mécanismes émotionnels sur lesquels je ne m'attarderai pas, encore une fois, faute de compétences, hein, mais je les cite très rapidement. Le système fight-flight, c'est-à-dire d'attaque-fuite dans une situation de danger, des systèmes émotionnels aussi de disposition ou d'habitude qui permettent d'adapter nos apprentissages aux situations présentes en fonction de filtres émotionnels, et puis enfin un système de surveillance qui permet d'éveiller la conscience en cas de situation inhabituelle. Alors cet apport des neurosciences, hein, soulève toutes sortes de questions et de difficultés. D'abord parce que, me semble-t-il, il y a des projets politiques sous-jacents qui ne sont pas toujours explicités, mais qui sont quand même là, derrière ces convergences entre sciences humaines et neurosciences. Il y a ce risque de biologiser les faits sociaux, hein, de mécaniser les individus et de réduire les émotions à des réponses, donc mécaniques, à des stimuli extérieurs. Hein. Si on lit certains travaux, encore qu'il ait évolué au fil du temps, de Damasio, on a l'impression que les émotions sont d'abord des mécanismes de régulation de la vie. Et ça se traduit par l'exportation des neurosciences dans certains secteurs des sciences humaines avec des visées très utilitaristes. Je pense par exemple au neuromarketing et à la neuroéconomie, hein, tous les mécanismes destinés à susciter le désir de consommation, par exemple à travers une analyse de l'imagerie médicale. Donc, le problème fondamental, c'est que probablement il y a une différence malgré tout d'objet et d'approche entre les sciences sociales et en particulier l'histoire et les neurosciences. Les neurosciences, en effet, hein, cherchent à accéder aux mécanismes non verbalisés, en partie inconscients de formation des émotions, mécanismes qui sont par définition inaccessibles à l'historien. Donc d'emblée, il y a ce décalage. D'autre part, l'historicité des émotions, la construction sociale des émotions est soit carrément niée, soit faiblement interrogée, hein, par les neurosciences. Quand je dis faiblement interrogée, ça veut dire soit dans une perspective très évolutionniste, en termes, encore une fois, d'adaptation, soit à travers un seul des systèmes émotionnels, hein, celui des dispositions ou des habitudes. Dans tous les cas, le dialogue entre histoire et sciences cognitives et neurosciences est effectivement compliqué, même s'il s'affine sans doute au fil du temps. La deuxième question, et qui est plus spécifiquement historienne, celle-là, c'est celle des traces d'une histoire des émotions, et en particulier de la tension entre langage et expérience. Comment rendre compte en historien de la tension entre ce qui est éprouvé et ce qui est dit. Alors, c'est une question qui n'est évidemment pas simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté l'expérience corporelle qui serait purement biologique des émotions, qui se traduirait donc par des perturbations somatiques, hein, les larmes, la sueur, les rictus de colère, etc., etc. Et puis de l'autre, l'étiquetage de ces émotions par le langage. Pourquoi ? Parce que le fait même d'exprimer une émotion peut conduire à construire une expérience émotionnelle. Donc le langage et l'expérience ne s'opposent nullement. Il est même des cas où l'expression des émotions joue le rôle, en quelque sorte, de soupape émotionnelle, permet d'exprimer et même d'expérimenter des émotions qui ne sont pas possibles autrement. Je pense à un article que j'avais lu d'un anthropologue qui avait travaillé sur un village du sud du Portugal et qui avait montré que des émotions typiquement féminines qui étaient impossibles à montrer dans un autre contexte, des émotions féminines comme la peur de la mort notamment, pouvaient l'être dans le cadre de poèmes ritualisés, récités, chantés dans des cafés, hein. Donc là, l'expression des émotions devient en quelque sorte une expérience par procuration. Et puis d'autre part, l'attribution, l'étiquetage, la nomination des émotions dans une interaction sociale modifie les relations entre les acteurs et peut produire à son tour des émotions. Donc il y a une circularité entre expérience et langage des émotions. Là, je citerai des travaux plus historiens sur le sujet, hein. En particulier, je pense à la disqualification des émotions populaires dans le discours des élites et en particulier dans les rapports administratifs sur l'opinion publique, hein. Et cette disqualification des émotions populaires peut produire en retour des effets politiques. Je pense par exemple aux travaux de Deborah Cohen sur le XVIIIe siècle, hein, sur ce qu'elle appelle la nature du peuple. Par ailleurs, pour penser ces relations entre langage et expérience, je reviendrai à... Alors, pardon peut-être de répéter ce qui a été dit hier, mais au moins je le fais dans une autre langue. Ce sera peut-être mon seul mérite, là. Je voudrais ici rappeler l'importance du concept forgé par l'historien américain William Ready. Hein, le concept, je ne sais pas très bien si je prononce bien, emotive, donc... Qui montre, encore une fois, hein, que le rapport entre langage et expérience des émotions est très, très complexe. Donc, par analogie avec la théorie des actes de langage d'Austin, il montre que l'énoncé affectif, hein, c'est-à-dire l'émotive, l'énoncé affectif, dire par exemple « je suis en colère », hein, a une double dimension. Cet énoncé est à la fois constatif, c'est-à-dire qu'il décrit une réalité sensible, mais en même temps, il est performatif au sens où il modifie l'état affectif du locuteur, mais aussi des personnes en interaction avec lui. Donc, il y a une circularité, encore une fois, hein, entre langage et expérience des émotions. Et il va encore plus loin dans son analyse en parlant de navigation émotionnelle pour les individus qui prononcent des émotives, donc, émotives, navigation émotionnelle qui résulte, selon lui, de la dialectique entre l'exploration de soi par le langage et puis la modification de soi, hein, self-exploring, d'une part, et puis self-altering, d'autre part. Donc on a un modèle très sophistiqué, très intéressant. Est-il applicable en histoire ? Réponse, à mon avis, non. Pourquoi ? Parce que les sources à la disposition des historiens, c'est le deuxième aspect que je voudrais développer avec vous, hein, ces sources sont à la fois biaisées, lacunaires et puis décalées. Pourquoi sont-elles biaisées ? Parce que, je vais dire des évidences, hein. D'abord parce que le lexique émotionnel est évidemment lui-même sujet d'histoire. Rappelons que le terme d'émotion a eu jusqu'à la fin du 19e siècle au moins une très forte connotation sociopolitique, c'est-à-dire que l'émotion se confond avec l'émeute, jusqu'au XIXe siècle, si on regarde les dictionnaires du XIXe siècle, hein, la deuxième entrée, après la perturbation du corps, on va dire, hein, ou de l'âme, la deuxième entrée, enfin la deuxième désignation, la deuxième définition, pardon, du terme émotion, je cite le dictionnaire Lavaux 1823, mouvement populaire qui précède les émeutes, les soulèvements. Hein. Donc, dans cette dépréciation des émotions populaires, il y a évidemment quelque chose d'important. Et donc, le mot d'émotion, lorsqu'on le retrouve dans une source du XIXe siècle, évidemment, doit, de ce point de vue-là, susciter une critique particulière. Et puis, historicité du langage émotionnel, certaines émotions ne peuvent être traduites dans un langage contemporain. Je pense en particulier à l'acédie médiévale, hein, qui ne se confond pas avec la mélancolie qui nous est familière. De même que la nostalgie, je veux dire, au XIXe siècle, qui est une perturbation d'ordre médical, hein, qui peut conduire à la mort, est évidemment différente de la nostalgie telle que nous l'entendons aujourd'hui. Bon, tout ça, c'est des évidences. D'autre part, les émotions énoncées, autre difficulté pour l'historien, les émotions énoncées peuvent fonctionner comme des fantasmes en réalité jamais réalisés et parfois comme des formes de tactiques d'affirmation de soi. Je pense par exemple à ce que Alain Corbin a analysé à propos de l'amour romantique. Toute la présence des stéréotypes de l'amour romantique dans les écrits du fort privé, c'est-à-dire dans les correspondances, les journaux intimes, les mémoires, les souvenirs, etc., etc. Cette surabondance des stéréotypes de l'amour romantique, selon Alain Corbin, soulève des difficultés d'interprétation. Est-ce que ces stéréotypes renvoient à des expériences vécues ou au contraire, il penche peut-être plutôt dans cette direction, est-ce que ces stéréotypes ne cherchent pas à exorciser un vide affectif en empruntant des codes rhétoriques issus de la littérature romantique contemporaine. Donc les sources sont biaisées, les sources sont lacunaires, hein, il faut évidemment jouer avec les silences laissés par les traces du passé, c'est-à-dire qu'une émotion non dite n'est pas nécessairement une émotion non éprouvée. Je pourrais citer de nombreux exemples. Je pense aux travaux de l'historien allemand Jan Plumper, hein, qui a montré que la peur est une émotion non présente dans les sources relatives aux guerres napoléoniennes, mais qu'elle réapparaît massivement pendant la guerre de Crimée dans les années 1850. Est-ce que ça signifie que les soldats russes en 1812 n'ont pas eu peur et qu'en 1854, tout à coup, ils se sont, selon les stéréotypes du temps, féminisés et ont eu peur? Non, hein, ça signifie simplement qu'il y a eu, dans le discours médical, un intérêt nouveau, hein, dans la psychologie, entre guillemets, militaire naissante, un intérêt nouveau pour la peur, et du coup, la trace est apparue à ce moment-là. Donc, du coup, tout ça est bien compliqué. Et pour pallier tous ces silences, il faut parfois recourir à ce qu'un historien de l'Antiquité appelle des scripts émotionnels. Et ça me paraît assez intéressant, même si là aussi, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Ces scripts émotionnels, c'est selon lui donc des séquences. C'est-à-dire, lorsque l'émotion n'est pas dite, elle peut être racontée par les gestes qu'il exprime. Donc, une émotion provoquant des séquences de comportements stéréotypés. Si l'on trouve dans une description fine des corps et des gestes la présence de ce transcript émotionnel, on peut conclure à l'existence de cette émotion. Bon, ça peut être intéressant en particulier pour les émotions des classes populaires qui ne se racontent pas, mais qui éventuellement peuvent être décrites. Alors, quand elles sont décrites dans leurs sentiments par les élites, je viens de le dire tout à l'heure, les mots ne comptent pas, enfin, ils sont à déconstruire immédiatement, mais quand on décrit les corps affectés, je pense aux travaux d'Arlette Farge, ça peut être malgré tout intéressant, même si là aussi, c'est très, très compliqué. Hein. De manière générale, hein, je ne serai pas le magicien qui donnera des recettes, hein, je soulèverai plus des difficultés qu'autre chose. Ces sources sont aussi décalées. C'est une évidence, là encore, les émotions sont dites dans un après-coup. Elles sont en plus souvent médiatisées par d'autres que leurs acteurs, et puis elles sont aussi médiatisées par des normes émotionnelles qu'il faut toujours déconstruire. Et donc, pour comprendre ces émotions, il ne faut pas simplement les contextualiser au sens classique, mais il faut les inscrire dans des interactions sociales. C'est une évidence, là aussi, hein, en particulier pour les sociologues ou les anthropologues, mais peut-être moins pour les historiens, parfois. Et donc, construire une sorte de pragmatique des émotions. Et du coup, dans cette pragmatique des émotions, certaines sources non évidentes peuvent être parfois sollicitées. Je vous dois donner juste un exemple. C'est-à-dire que pour l'histoire des émotions, on pense toujours aux journaux intimes, à la correspondance, tout ce que j'ai évoqué à propos des écrits du fort privé. Certes, mais parfois, des sources inattendues, comme les sources administratives, peuvent être très intéressantes lorsque l'émotion est mobilisée comme ressource. Je pense en particulier à des périodes de retournement politique, pendant lesquelles des reconversions politiques ou tout simplement la tentative de trouver une place, hein, provoque une écriture de soi. Je pense aux demandes de pension, aux demandes de récompense civique, donc demandes de pension, par exemple, au début de la Restauration en France, hein, d'anciens vaincus, ou des girouettes, parfois, cherchent à obtenir une place et racontent les émotions vécu en se construisant parfois des biographies totalement inventées, hein, de victimes de la Révolution, par exemple, lorsque ce sont des girouettes. Et à ce moment-là, ce n'est pas l'émotion vécue qui nous intéresse, mais l'émotion comme ressource mise à la disposition d'un acteur pour s'intégrer dans le nouveau jeu politique. De la même manière, hein, c'est-à-dire que l'émotion, elle est à la charnière de l'expérience vécue ou inventée, et des attentes administratives ou juridico-administratives qui permettent de valider cette émotion comme une possibilité d'entrer dans le jeu politique. Donc, l'émotion saisie dans une interaction. Troisième difficulté dans cette histoire des émotions, c'est la question de l'incorporation sociale des émotions, c'est-à-dire comment les manifestations émotionnelles s'inscrivent-elles dans le social, comment se construisent des normes émotionnelles et comment ces normes émotionnelles sont-elles incorporées ensuite par les individus. Alors, nouvelles évidences, les normes émotionnelles sont l'objet évidemment d'apprentissage et ces normes émotionnelles traduisent des partages sociaux, hein, en termes de genre, j'en parlais tout à l'heure, en termes évidemment de classe d'âge, en termes de groupes sociaux, bien évidemment. Un seul exemple, hein, la contention, l'autocontrôle des émotions censées être populaires, et ça a été dit hier par Christophe Traini à propos du premier âge de la protection animale. Donc cette contention, cet autocontrôle des émotions participe, entre guillemets, à l'habitus bourgeois, hein, au XIXe siècle, plus au niveau des représentations, d'ailleurs, que des pratiques concrètes. Si on analyse, par exemple, les rixes dans certains contextes, hein, les bourgeois ne sont pas exempts de violences parfois archaïques, entre guillemets. Par ailleurs, une question qui me semble plus intéressante, c'est celle de voir si les expériences émotionnelles recouvrent les cadres sociaux ordinaires ou si, au contraire, ces expériences émotionnelles ne recomposent pas ce que certains historiens proposent d'appeler des communautés émotionnelles. L'exemple justement développé par Christophe Traini hier le montrait bien, hein, c'est que certains dispositifs émotionnels et certaines expériences aussi militantes conduisent à autour d'émotions partagées, à cristalliser des groupes sociaux entre eux qui n'ont pas nécessairement des intérêts convergents. Alors, cette notion de communauté émotionnelle, elle a beaucoup été développée par la médiéviste américaine Barbara Rosenwein. Qu'est-ce qu'une communauté émotionnelle, selon elle ? Un groupe de personnes animées par des intérêts, des valeurs, des styles, des évaluations émotionnelles communes ou similaires. Il suffit de lire cette définition pour voir que c'est un concept assez mou. C'est un concept assez mou parce que soit on considère que ces communautés émotionnelles recouvrent des groupes sociaux antérieurs qui partageraient des émotions et surtout des normes émotionnelles communes, et à ce moment-là, c'est tautologique. Soit on dit que la communauté émotionnelle, elle se construit dans l'expérience, et à ce moment-là, combien de communautés émotionnelles participons-nous au cours d'une vie, au cours d'une journée même. Autrement dit, c'est à mon avis un concept qui est utile et dont on ne peut pas se passer, on l'a vu hier, mais problématique. En fait, il revient en particulier, enfin, les difficultés se rencontrent à peu près dans le même ordre d'idée qu'avec le concept de génération, qui repose lui aussi finalement sur une expérience émotionnelle fondatrice. Qu'est-ce qu'une génération ? C'est une classe d'âge ayant vécu une expérience commune sur un plan affectif qui, ensuite, a construit, en quelque sorte, sa trajectoire biographique. Autre question dans cette incorporation sociale des émotions, c'est en quoi les émotions peuvent-elles être à la fois le produit de processus de domination et en même temps le vecteur d'une émancipation possible. Alors, ces émotions, elles traduisent bien sûr des formes de domination. Je pense, ça a été évoqué hier après-midi, bien sûr, je pense à l'habitus de Pierre Bourdieu, mais aussi à ce qu'il appelle les émotions corporelles dans les méditations pascaliennes et qui montrent comment les dominés en situation d'interaction avec des dominants ne peuvent dissimuler la gêne, la honte, la timidité, etc., en les replongeant dans des situations archaïques liées à l'enfance et à l'univers familial. Donc, les émotions incorporent la domination, c'est une évidence. Mais les acteurs ne sont pas prisonniers de cette incorporation-là. Ils peuvent, au contraire, par des émotions discrètes, subvertir les relations sociales. Je pense là aux travaux de l'anthropologue James Scott, dans ses Arts de la résistance, où il montre, par exemple, que rire sous cape, l'ironie cachée des dominés, peut être une forme de résistance à travers donc des codes cachés, ce qu'il appelle les « hidden transcripts ». Les émotions peuvent aussi, alors on franchit un saut supplémentaire, construire les conditions d'une émancipation possible, en tout cas d'une contestation des mises en ordre sociaux par des expériences affectives. Je pense là aux travaux récents de Lynn Hunt sur l'invention des droits de l'homme, où elle a montré comment, avant même la déclaration des droits de l'homme, des droits naturels, l'expérience de l'empathie, l'expérience sensible de l'empathie, qui est une valeur montante au fil du XVIIIe siècle, avait rendu ces droits naturels, en quelque sorte, acceptables. Et elle évoque, alors on peut être plus ou moins convaincu par les exemples, elle évoque la lecture des romans sentimentaux, des mélodrames, ou bien la dénonciation de la torture comme acculturation à la notion de droit naturel universel. Donc l'émotion, à nouveau, surgit comme ressource et possibilité d'émancipation. Et du coup, on en arrive à cette compréhension de l'émotion que j'évoquais tout à l'heure. L'émotion ne permet pas de comprendre les changements historiques, en tout cas pas à elle seule, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi, à mon sens, il n'y a pas de tournant, c'est-à-dire un nouveau paradigme d'interprétation des faits sociaux à travers les émotions. Par contre, l'émotion peut être un observatoire pour comprendre autrement les relations sociales, les mécanismes de domination ou au contraire de résistance. Mais il ne faut pas les travailler en champ clos, à mon avis. Et donc, je voudrais illustrer un petit peu cela avec l'exemple de l'histoire politique, comment l'histoire politique a été, j'allais dire, affectée par le champ émotionnel. Alors, il faut bien dire que c'est à la fois une vieille tradition qui est ici réactivée, et puis en même temps, c'est une partie marginale de l'histoire politique qui s'est intéressée jusqu'alors aux émotions. L'histoire, disons, traditionnelle, celle des institutions, des partis, des élections, s'intéresse absolument pas aux émotions. Celle qui s'intéresse aux émotions, c'est ce qu'on appelle l'histoire de la politique informelle, qui s'est développée de plus en plus hein, depuis une dizaine ou même une vingtaine d'années, hein, en réalité, hein, c'est-à-dire hors de la scène politique instituée. L'idée est que les échanges émotionnels construisent une scène publique alternative à la scène de la représentation politique officielle. C'est pourquoi l'histoire politique des émotions est une histoire informelle du politique. Plusieurs chantiers, de ce point de vue-là, ont pu être renouvelés. Tout d'abord, ce qui concerne l'historicité des affects en politique. Le temps courant, je vais aller assez rapidement sur ces aspects qui sont peut-être les plus classiques hein, et qui consistent à rappeler que les normes émotionnelles en politique sont évidemment sujettes à histoire, que certains sentiments sont plus ou moins valorisés dans les moments politiques. Bon, je pense en particulier pour mes propres travaux, à la valorisation de l'expiation comme sentiment politique, ce qu'aujourd'hui on appellerait la repentance, dans le moment restauration, hein, donc entre 1814 et 1830, avant d'être au contraire un sentiment devenu inacceptable. Il y a aussi une historicité des dispositifs émotionnels, ça a été tellement dit hier que pas la peine de revenir là-dessus. Là, je pense plus aux travaux d'Ute Frevert, qui travaille sur la communication émotionnelle des monarchies au XIXe siècle, hein, et qui montre la nécessité pour les souverains, dans un moment post-révolutionnaire, de se montrer à la fois sacré, certes, mais accessible, hein, et donnant lieu, du coup, à des techniques émotionnelles nouvelles. Alors, William Reddy, toujours lui, propose de distinguer, pour qualifier cette histoire des émotions, propose le concept de régime émotionnel, hein, c'est-à-dire des dispositifs de pouvoir qui imposent aux individus des normes émotionnelles. Des dispositifs de pouvoir qui imposent aux individus des normes émotionnelles et que lui identifie plus ou moins avec les régimes politiques, pour lesquels les émotions sont des socles de légitimation ou de stabilisation. Alors là encore, le concept est intéressant, hein, régime émotionnel. Est-ce qu'il y a un régime émotionnel dominant à un moment ? Évidemment non. Donc là encore, comme pour les communautés émotionnelles, on se retrouve face au même problème. Il y a une pluralité des régimes émotionnels. Comment évolue-t-il ? Bon, on se heurte à des impensés qui sont... Ce qui me semble peut-être plus intéressant, c'est de montrer en quoi les émotions en politique permettent aussi de montrer le croisement de plusieurs temporalités. Je pense en particulier aux travaux sur les moments de violence paroxystique qui mettent en œuvre plusieurs régimes émotionnels sur des temporalités différentes. Et là, je pense aux travaux célèbres d'Alain Corbin hein, sur le supplice terrible d'un jeune aristocrate, Alain de Monet, dans un petit village du Périgord, hein, le village des cannibales. 2 heures de supplice, et puis il a fini pratiquement rôti hein, au milieu de la liesse populaire. Donc, dernier exemple, selon lui, de massacre d'anciens types, hein, c'est-à-dire le massacre d'anciens types, c'est presque de l'ordre de la chasse, où on remporte un trophée et où le massacre produit une liesse collective en public. Hein, c'est ça pour lui le massacre. Donc cet exemple, en pleine guerre franco-prussienne, hein, il faut bien sûr le rappeler, au moment où des rumeurs de défaite circulent dans dans l'espace rural. Donc, je le disais, ce massacre renvoie à plusieurs régimes émotionnels qui se télescopent dans ce contexte bien précis. Régime émotionnel de longue durée qui est l'opposition aux notables, et en particulier donc aux nobles d'une part et aux clergés d'autre part dans ce Périgord bonapartiste. Et puis un deuxième régime émotionnel qui est lié à un moment de panique collective, au moment où, encore une fois, les rumeurs de défaite circulent dans le territoire, dans le contexte plus précis de la guerre de 70. Donc, ces régimes émotionnels se croisant, ils produisent ce que Alain Corbat appelle une équation victimaire. Hein. Alain de Monet ayant été censé crier « Vive la République hein, !», eh bien, il est assimilé à un républicain, et comme il est un noble, dans le moment, c'est-à-dire un noble, donc un ennemi intérieur, donc dans le moment particulier de la guerre de 70, il devient un Prussien. Et il est embroché comme un Prussien, selon les expressions utilisées par les villageois. Cette histoire politique, d'autre part, elle est intéressante lorsqu'elle travaille sur des dispositifs émotionnels. Et encore une fois, je renvoie à tout ce qui a été dit hier. Mais là, je m'intéresserai plus aux rituels. Et ça fera l'objet de l'atelier de cet après-midi, plus précisément. Mais je donne quand même quelques pistes de ce point de vue-là. C'est la difficile question de la réception, la circulation et de la réception des émotions à partir d'un rituel. On en revient évidemment à la vieille question de l'effervescence collective, hein, ça a été aussi évoqué hier après-midi, hein, c'est-à-dire les thèses durkheimiennes selon lesquelles le partage d'émotions dans un rituel produit un sentiment d'appartenance à une communauté, hein, et crée donc un processus d'intégration. Alors le problème pour les historiens du politique, c'est comment qualifier politiquement ces émotions vécues. C'est-à-dire, peut-on, à partir d'émotions observées, des applaudissements au moment du passage d'un cortège, des pleurs, des échanges lacrymaux pendant une cérémonie funèbre, peut-on donc déduire de cette observation des corps, peut-on déduire une croyance politique, une adhésion, par exemple, au régime qui ordonne ces rituels? Alors, évidemment non, et c'est la déconstruction à laquelle s'attache donc Nicolas Mariot, hein, dans un livre qui a été assez commenté, hein, « Bain de foule », où il travaille sur les voyages présidentiels surtout, hein, mais où il montre qu'en réalité, ce partage d'émotions n'est en réalité qu'une forme de conformisme social. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le rituel, ce ne sont pas les croyances ou les opinions qui sont en réalité des créations des observateurs extérieurs. Ce qui est intéressant, c'est l'encadrement social qui permet la réussite ou l'échec, le plus souvent la réussite, des grandes fêtes civiques ou des grands rituels politiques. Autrement dit, hein, c'est la mobilisation, par exemple, des petites patries, des municipalités, des sociétés de tir, de gymnastique, des orphéons locaux pour la Troisième République, hein, lors du passage du cortège du président de la République. Mais alors, du coup, on en arrive à une histoire que j'appellerais un peu déceptive, hein, des rituels, et un peu tautologique aussi, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est la mobilisation sociale qui produit la réussite et, d'un rituel, et on s'arrête là, on ne peut pas aller au-delà. À mon sens, on peut décomposer un peu plus la question en utilisant le concept de cadrage des rituels, un concept emprunté à la sociologie interactionniste, hein, de Erving Goffman, c'est-à-dire comment des individus dans des micro-scènes rituelles, et chacun d'entre vous, j'imagine, a participé à une manifestation, et a sans doute été frappé de la discordance entre sa propre expérience et le récit qui en est fait ensuite par les journalistes. C'est-à-dire que on vit un rite dans une micro-scène autour d'amis, par exemple, qui donne un sens particulier à ce rituel, qui est plus important, à mon avis, que le sens global, qui, effectivement, est à peu près toujours le même. Donc, décomposer le rituel en micro-scènes et s'intéresser au processus de cadrage. Je pense par exemple, pour mes, entre guillemets, mes enterrements manifestations hein, du 19e siècle, c'est-à-dire les enterrements protestataires, un geste qui peut paraître anodin, c'est-à-dire le fait d'applaudir au passage du cortège et de déposer une couronne funèbre, hein, a été compris par les acteurs comme une récompense civique, une sorte de panthéonisation informelle. Et donc, vous avez là un exemple hein, qui montre comment le sens est produit par les acteurs de manière autonome et spécifique et permet d'aller au-delà de la simple mobilisation sociale. D'autre part, à mon sens, il faut distinguer dans les émotions qui sont observées lors de ces rituels, il faut distinguer donc d'une part les émotions normées, c'est-à-dire celles qui sont, et j'allais dire, aucune de ces trois émotions n'est plus vraie que l'autre. Il faut prendre en compte les trois ensemble. Les émotions normées, c'est-à-dire les émotions qui sont configurées par le discours des ordonnateurs de rituels et qui peuvent elles-mêmes être plurielles. Il faudrait le montrer à partir d'exemples précis. Hein. C'est-à-dire que souvent, il y a des entrepreneurs, pour reprendre l'expression d'hier, des entrepreneurs de mémoire ou des entrepreneurs de rituels qui ont des intérêts contradictoires et qui expriment des émotions différentes, des émotions normées. Ensuite, travailler sur les émotions incorporées, c'est-à-dire manifestées dans les corps des acteurs ou non, d'ailleurs, hein. Et enfin, travailler à la subjectivation des émotions, c'est-à-dire comment ces émotions sont ensuite intégrées dans le parcours biographique, la trajectoire des acteurs, comment éventuellement d'ailleurs les expériences dites contredisent les expériences incorporées, et on revient à nouveau à la question de la tension entre langage et expérience des émotions. Et puis, j'ai déjà largement dépassé mon temps, donc vraiment, je vais très vite là-dessus. La troisième piste qui, pour l'instant, est un peu, embryonnaire, hein, mais qui me semble vraiment intéressante, c'est celle des liens entre émotion, jugement et subjectivation politique. Alors, résumer très vite, c'est un petit peu compliqué. Mais enfin, l'idée principale, c'est de dire que Dans certains contextes, l'évaluation sensible d'une situation, donc l'évaluation émotionnelle, d'une situation produisant le sentiment d'injustice en fonction de normes plus ou moins explicites, eh bien cette évaluation peut conduire donc à un engagement politique, à un passage à l'acte, y compris de la part des dominés qui, théoriquement, n'ont pas les moyens conceptuels de formaliser, justement, cette injustice. Alors, de nombreux travaux hein, ont exploré ces questions. Hein, ceux d'Axel Honneth, c'est-à-dire la nouvelle génération de l'école de Francfort, hein, autour de la lutte pour la reconnaissance. Comment le sentiment de mépris peut produire une lutte pour la reconnaissance publique hein, par le droit par exemple ou par la solidarité hein, par la réciprocité en tout cas de droit dans une communauté politique. Je pense aussi aux travaux de Jacques Rancière, comment l'évaluation sensible d'une situation peut renverser ce qu'il appelle le partage du sensible. Qu'est-ce que c'est que le partage du sensible? C'est le fait de considérer que le logos est du côté des élites et que, d'autre part, la chair des passions hein, est du côté du peuple. Or, l'émotion comme jugement permet de bouleverser ce cadre. Hein. L'émotion comme jugement implique une forme de rationalité et donc de dépassement de ce partage du sensible. Ça a été un peu tenté par Sophie Vanisch, en tout cas sa perspective est intéressante ensuite, bon, ses conclusions ont été fortement discutées, hein, sur l'interprétation qu'elle donne des massacres de septembre 1792 et sur l'intériorisation affective des droits naturels par les citoyens en révolution. Ça permet aussi de remonter, hein, à la vieille notion de... Enfin, la notion d'économie morale forgée dans les années 70 déjà par Edward Thompson et qui comporte une dimension aussi émotionnelle. Mais c'est aussi du côté des spectateurs, hein, que cette émotion comme préjugement et possibilité de passage à l'acte, en tout cas de mobilisation, c'est donc du côté des spectateurs que l'on peut aussi s'intéresser. Et là, ce sont les travaux de Luc Boltanski qui ont été évoqués hier, qui sont les plus forts, à mon avis, hein, en distinguant trois types de mobilisation émotionnelle, hein, à travers ce qu'il appelle les topiques de la dénonciation, d'une part, la topique du sentiment, d'autre part, et puis la topique du sublime, d'autre part. Donc la topique de la dénonciation, c'est lorsque l'indignation du spectateur conduit à la dénonciation du persécuteur, hein. La topique du sentiment, c'est lorsque le spectateur sympathise avec la victime et extériorise sa propre émotion compassionnelle avec une forme de narcissisme. Et la topique du sublime, hein, c'est lorsque le spectacle de la souffrance conduit à esthétiser l'horreur et à confiner du coup le politique dans le théâtre ou la fiction. Et ces trois topiques pourraient être tout à fait appliquées à un moment politique qui valorise fortement la compassion, c'est justement le premier 19e siècle, l'âge romantique, et permet de mieux comprendre, par exemple, hein, les mobilisations transnationales en faveur des Grecs, hein, le grand mouvement philhellène, qui peut prendre chacune de ces figures, hein, dénonciation, sentiment ou sublime. Donc, quelques mots pour conclure, enfin, et dire combien les émotions sont évidemment des objets compliqués à travailler, combien elles doivent être inscrites toujours dans des interactions sociales et non pas closes dans un champ autonome, pour dire qu'à mon sens, il n'y a pas de tournant épistémologique. D'ailleurs, il y a tellement de tournants, si on suit le vocabulaire des sciences sociales depuis 20 ans. Hein, il y a eu le linguistic turn. Bon, certains parlent de iconic turn, pictorial turn, et j'en oublie beaucoup. Donc, il y a une espèce de vogue de ces tournants dont il faut évidemment se méfier. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que l'histoire des émotions pose des questions à un degré paroxystique qui s'applique en réalité à tout type d'histoire. Et c'est pour ça que c'est intéressant, en particulier ce que je disais à propos de la tension langage-expérience, hein. Du coup, ça peut être mobilisé, à mon avis, toutes ces questions, même par des chercheurs qui ne s'intéressent pas directement aux émotions. Et puis donc, les émotions sont des voies d'accès à des manières autres de comprendre les relations sociales et de dépasser l'opposition, mais domination-résistance, par exemple, comme je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure. Donc, je vous remercie de votre attention. J'étais trop long.